Chapitre 3, de 9h à midi, de midi à 3h. En rentrant au château, Roederer trouva le valet de chambre qui le cherchait de la part de la reine. Lui-même cherchait la reine, sachant que dans ce moment, elle était la vraie force du château. Il fut donc heureux d'apprendre qu'elle l'attendait dans un endroit écarté où il pourrait lui parler seul et sans être interrompu. En conséquence, il monta derrière Weber. La reine était assise près de la cheminée, le dos tourné à la fenêtre. Au bruit que fit la porte, elle se retourna vivement. « Eh bien, monsieur ? » demanda-t-elle, interrogeant sans donner un but positif à son interrogation. « La reine m'a fait l'honneur de m'appeler, » répondit Roederer. « Oui, monsieur, vous êtes un des premiers magistrats de la ville. Votre présence au château est un bouclier pour la royauté. Je veux donc vous demander ce que nous avons à espérer ou à craindre. »
« À espérer peu de choses, madame, à craindre beaucoup. »
« Le peuple marche donc décidément contre le château ? » ?»«
Son avant-garde est sur le carrousel et parlemente avec les Suisses. »«
Parlemente, monsieur, mais j'ai fait donner ordre aux Suisses de repousser la force par la force. Serait-il disposé à désobéir ?»«
Non, madame, les Suisses mourront à leur poste. » »«
Et nous au nôtre, monsieur, de même que les Suisses sont des soldats au service des rois, les rois sont des soldats au service de la monarchie. »
Roederer se tut.
« Aurais-je le malheur d'être un avis qui ne s'accorda point avec le vôtre ? » demanda la reine.
« Madame, dit Roederer, je n'aurai d'avis que si votre majesté me fait la grâce de m'en demander un. »
« Monsieur, je vous le demande. »
« Eh bien, madame, je vais vous le dire avec la franchise d'un homme convaincu. Mon avis est que le roi est perdu s'il reste aux Tuileries. »
« Mais si nous ne restons pas aux Tuileries, où irons-nous ? » s'écria la reine, en se levant tout effrayée.
« Il n'y a plus à l'heure qu'il est, dit Roederer, qu'un asile qui puisse protéger la famille royale. »«
Lequel, monsieur ?»«
L'Assemblée nationale. »«
Comment avez-vous dit, monsieur ?» demanda la reine, clignant rapidement des yeux et interrogeant comme une femme persuadée qu'elle a mal entendu.
« L'Assemblée nationale, » répéta Roederer.
« Et vous croyez, monsieur, que je demanderai quelque chose à ces gens-là ? »
Roederer se tut.
« Ennemi pour ennemi, monsieur, j'aime mieux ceux qui nous attaquent en face et au grand jour que ceux qui veulent nous détruire par derrière et dans l'ombre. »«
Eh bien, madame, alors décidez-vous, allez en avant du peuple ou battez en retraite vers l'Assemblée. »«
Battre en retraite ? Nous sommes donc tellement dépourvus de défenseurs que nous soyons forcés de battre en retraite avant même d'avoir essuyé le feu. »
« Voulez-vous, avant de prendre une résolution, madame, écouter le rapport d'un homme compétent et connaître les forces dont vous pouvez disposer ?»«
Weber, va me chercher un des officiers du château, soit M. Maillardot, soit M. de la Chesnaye, soit... » Elle allait dire, soit le comte de Charny. Elle s'arrêta.
Weber sortit.
« Si votre majesté voulait s'approcher de la fenêtre, elle jugerait par elle-même. »
La reine fit, avec une répugnance visible, quelques pas vers la fenêtre, écarta les rideaux et vit le carrousel et même la cour royale remplie d'hommes à pic.
« Mon Dieu ! » s'écria-t-elle, « mais que font là ces hommes ? » ?»«
Je l'ai dit à votre majesté, ils parlementent. » »«
Mais ils sont entrés jusque dans la cour du château ?»
J'ai cru devoir gagner du temps pour donner à votre majesté le loisir de prendre une résolution. En ce moment, la porte s'ouvrit.
« Venez, venez !» s'écria la reine, sans savoir à qui elle s'adressait.
Charny entra.
« Mais voici, madame, dit-il.
« Ah, c'est vous. Alors je n'ai rien à vous demander, car tout à l'heure, vous m'avez déjà dit ce qu'il nous restait à faire. »«
Et selon monsieur, demanda Roederer, il vous reste ?»«
À mourir, dit la reine.
« Vous voyez que ce que je vous propose est préférable, madame. »«
Oh, sur mon âme, je n'en sais rien, dit la reine. »«
Que propose monsieur ?» demanda Charny.
« De conduire le roi à l'Assemblée. »«
Ce n'est point la mort, dit Charny, mais c'est la honte. »«
Vous entendez, monsieur, dit la reine. »«
Voyons, reprit Roederer, n'y aurait-il pas un parti moyen ?»
Weber s'avança. « Je suis bien peu de choses, dit-il, et je sais qu'il est bien hardi à moi de prendre la parole en pareille compagnie, mais peut-être mon dévouement m'inspire-t-il. » Si l'on se contentait de demander à l'Assemblée d'envoyer une députation pour veiller à la sûreté du roi.
Bien soit, dit la reine, à cela je consens. Monsieur de Charny, si vous approuvez cette proposition, allez, je vous en prie, la soumettre au roi.
Charny s'inclina et sortit.
Suis le comte, Weber, et apporte-moi la réponse du roi.
Weber sortit derrière le comte. La présence de Charny, froid, grave, dévoué, était, sinon pour la reine, du moins pour la femme, un si cruel reproche qu'elle ne le revoyait qu'en frissonnant. Puis peut-être avait-elle quelque pressentiment terrible de ce qui allait se passer. Weber rentra. « Le roi accepte, madame, dit-il, et messieurs Champion et de Joly se rendent à l'instant à l'assemblée pour porter la demande de sa majesté. »«
Mais regardez donc, fit la reine.
Quoi, madame ?» demanda Röderer.
« Et que font-ils là ?»
Les assiégeants étaient occupés à pêcher des Suisses. Röderer regarda, mais avant qu'il eût le temps de se faire une idée de ce qui se passait, un coup de pistolet éclata, qui fut suivi de la formidable décharge. Le château trembla comme ébranlé dans ses fondements. La reine poussa un cri, recula d'un pas, puis, entraînée par la curiosité, revint à la fenêtre.
« Ah, voyez, voyez !» s'écria-t-elle, les yeux enflammés. « Ils fuient ! Ils sont en déroute !»
Que disiez-vous donc, monsieur Röderer, que nous n'avions plus d'autre ressource que l'assemblée ?»«
Sa majesté, répondit Röderer, veut-elle me faire la grâce de me suivre ?»« Oh, voyez, voyez !» continua la reine. « Voici ces Suisses qui font une sortie et qui les poursuivent. Oh, le carrousel est libre ! Victoire ! Victoire !»«
Par pitié pour vous-même, madame, dit Röderer, suivez-moi !» La reine revint à elle et suivit le syndic.
« Où est le roi ?» demanda Röderer au premier valet de chambre qu'il rencontra.
« Le roi est dans la galerie du Louvre, » répondit celui-ci.
« C'est justement là que je voulais conduire votre majesté, » dit Röderer.
La reine suivit, sans se faire une idée de l'intention de son guide.
La galerie était barricadée à moitié de sa longueur et coupée au tiers. 200 ou 300 hommes la défendaient et pouvaient se replier sur les Tuileries au moyen d'une espèce de pont volant qui, repoussé du pied par le dernier fuyard, tombait du premier étage au rez-de-chaussée. Le roi était à une fenêtre avec messieurs de la Chesnaye, Maillardot et 5 ou 6 gentilshommes. Il tenait une lunette à la main. La reine courut au balcon et n'eut pas besoin de lunettes pour voir ce qui se passait. L'armée de l'insurrection approchait, longue et épaisse, couvrant toute la largeur du quai et s'étendant à perte de vue. Par le pont neuf, le faubourg Saint-Marceau faisait sa jonction avec le faubourg Saint-Antoine. Toutes les cloches de Paris sonnaient frénétiquement le tocsin, le bourdon de Notre-Dame couvrant de sa grosse voix toutes ces vibrations de bronze. Un soleil ardent rejaillissait en milliers d'éclairs sur les canons des fusils et sur les fers des lances. Puis, comme le bruit lointain de l'orage, on entendait le roulement sourd des pièces d'artillerie.
« Eh bien, madame ?» demanda Röderer.
Une 50aine de personnes s'étaient amassées derrière le roi. La reine jeta un long regard sur toute cette foule qui l'entourait. Ce regard semblait aller jusqu'au fond des cœurs, chercher tout ce qu'il y pouvait rester de dévouement. Puis, muette, pauvre femme, ne sachant à qui s'adresser ni quelle prière faire, elle prit son enfant, le montrant aux officiers suisses, aux officiers de la garde nationale, aux gentilshommes. Ce n'était plus la reine demandant un trône pour son héritier, c'était la mère en détresse au milieu d'un incendie et criant « Mon enfant, qui sauvera mon enfant ?» Pendant ce temps, le roi causait tout bas avec le syndic de la commune, ou plutôt Röderer lui répétait ce qu'il avait déjà dit à la reine. Deux groupes bien distincts s'étaient formés autour des deux augustes personnages, le groupe du roi, froid, grave, composé de conseillers qui semblaient approuver l'avis émis par Röderer, le groupe de la reine, ardent, enthousiaste, nombreux, composé de jeunes militaires agitant leurs chapeaux, tirant leurs épées, levant les mains vers le dauphin, baisant à genoux la robe de la reine, jurant de mourir pour l'un et pour l'autre. Dans cet enthousiasme, la reine retrouva un peu d'espoir. En ce moment, le groupe du roi se réunit à celui de la reine, et le roi, avec son impassibilité ordinaire, se retrouva le centre des deux groupes confondus. Cette impassibilité, c'était peut-être du courage. La reine saisit 2 pistolets à la ceinture de M. Maillardot, commandant des Suisses. « Allons, sire, dit-elle, voici le moment de vous montrer ou de périr au milieu de vos amis. » Ce mouvement de la reine avait porté l'enthousiasme à son comble. Chacun attendait la réponse du roi, bouche béante, haleine suspendue. Un roi jeune, beau, brave, qui, l'œil ardent, la lèvre frémissante, se fût jeté ses 2 pistolets à la main au milieu du combat, pouvait rappeler à lui la fortune, peut-être. On attendait, on espérait. Le roi prit les pistolets des mains de la reine et les rendit à M. Maillardot. Puis, se tournant vers le syndic de la commune,
Vous dites donc, monsieur, que je dois me rendre à l'assemblée? Demanda-t-il.
Sire, répondit Roederer en s'inclinant, c'est mon avis.
Allons, messieurs, dit le roi, il n'y a plus rien à faire ici.
La reine poussa un soupir, prit le dauphin dans ses bras et s'adressant à madame de Lamballe et madame de Tourzel,
Venez, mesdames, dit-elle, puisque le roi le veut ainsi, c'est-à-dire à toutes les autres, je vous abandonne.
Madame Campan attendait la reine dans le corridor par lequel elle devait passer.
La reine la vit. « Attendez-moi dans mon appartement, dit-elle, je viendrai vous rejoindre et je vous enverrai chercher pour aller, Dieu sait où. »
Puis tout bas, se penchant vers madame Campan, « Oh » murmura-t-elle, « une tour au bord de la mer. » Les gentilshommes abandonnés se regardaient les uns les autres et semblaient se dire, « Est-ce pour ce roi que nous sommes venus chercher la mort ?»
Monsieur de la Chesnaye comprit cette muette interrogation.
« Non, messieurs, dit-il, c'est pour la royauté. L'homme est mortel, le principe impérissable. »
Quant aux malheureuses femmes, et il y en avait beaucoup, quelques-unes absentes du château avaient fait des efforts inouïs pour y rentrer. Quant aux femmes, elles étaient terrifiées. On eût dit autant de statues de marbre debout aux angles des corridors et le long des escaliers. Enfin, le roi daigna penser à ceux qu'il abandonnait. Au bas de l'escalier, il s'arrêta.
Mais, dit-il, que vont devenir toutes les personnes que j'ai laissées là-haut?
Sire, répondit Roederer, rien ne leur sera plus facile que de vous suivre. Elles sont en habit de ville et passeront par le jardin.
Ah, c'est vrai, dit le roi. Allons.
Ah, monsieur de Charny, dit la reine, apercevant le comte qui l'attendait à la porte du jardin, les pieds nus, que ne vous ai-je écouté avant-hier quand vous m'avez conseillé de fuir?
Le comte ne répondit rien, mais s'approchant du roi,
« Sire, dit-il, le roi voudrait-il prendre mon chapeau et me donner le sien qui pourrait le faire reconnaître ?»«
Ah, vous avez raison, dit le roi, à cause de la plume blanche. Merci, monsieur. »
Et il prit le chapeau de Charny et lui donna le sien.
« Monsieur, dit la reine, le roi courrait-il quelque danger pendant cette traversée ?»«
Vous voyez, madame, que si ce danger existe, je fais tout ce que je puis pour le détourner de celui qu'il menace. »
Sire, dit le capitaine, chargé de protéger le passage du roi à travers le jardin, votre majesté est-elle prête?
Oui, répondit le roi, en enfonçant sur sa tête le chapeau de Charny.
Alors, dit le capitaine, sortons.
Le roi s'avança au milieu des deux rangs de Suisses qui marchaient du même pas que lui. Tout à coup, on entendit de grands cris à droite. La porte qui donnait sur les Tuileries, près du café de Flore, était forcée. Une masse de peuple, sachant que le roi se rendait à l'assemblée, se précipitait dans le jardin. Un homme qui paraissait conduire toute cette bande portait pour bannière une tête au bout d'une pique. Le capitaine fit faire halte et apprêter les armes.
« Monsieur de Charny, dit la reine, si vous me voyez sur le point de tomber aux mains de ces misérables, vous me tuerez, n'est-ce pas ?»«
Je ne puis vous promettre cela, madame, répondit Charny.
« Et pourquoi donc ? S'écria la reine.
Parce qu'avant qu'une seule main vous ait touché, je serai mort.
« Tiens, dit le roi, c'est la tête de ce pauvre monsieur Mandat, je la reconnais. »
Cette bande d'assassins n'osa approcher, mais elle accabla d'injures le roi et la reine. 5 ou 6 coups de fusil furent tirés, un Suisse tomba mort, un autre blessé. Le capitaine ordonna de mettre en joue. Ses hommes obéirent.
« Ne tirez pas, monsieur, dit Charny, ou pas un de nous n'arrivera vivant à l'assemblée. »
C'est juste, monsieur, dit le capitaine. Arme au bras.
Les soldats remirent l'arme au bras, et l'on continua de s'avancer en coupant diagonalement le jardin. Les premières chaleurs de l'année avaient jauni les marronniers. Quoiqu'on ne fût encore qu'au commencement doux, les feuilles déjà sèches jonchaient la terre. Le petit dauphin les roulait sous ses pieds et s'amusait à les pousser sous ceux de sa sœur.
Les feuilles tombent de bonne heure cette année, dit le roi.
N'y a-t-il pas un de ces hommes qui a écrit « La royauté n'ira pas jusqu'à la chute des feuilles ?» dit la reine.
« Oui, madame, répondit Charny.
« Et comment appelle-t-on cet habile prophète ?»«
Manuel. »
Cependant, un nouvel obstacle se présentait devant les pas de la famille royale. C'était un groupe considérable d'hommes et de femmes qui attendaient, avec des gestes menaçants et en agitant des armes, sur l'escalier et sur la terrasse qu'il fallait monter et traverser pour se rendre du jardin des Tuileries au manège. Le danger était d'autant plus réel qu'il n'y avait plus moyen pour les Suisses de garder leur rang. Le capitaine essaya néanmoins de leur faire percer la foule, mais il se manifesta une telle rage que Roederer s'écria, Monsieur, prenez garde, vous allez faire tuer le roi. » On fit halte et un messager alla prévenir l'assemblée que le roi venait lui demander asile. L'assemblée envoya une députation, mais la vue de cette députation redoubla la fureur de la multitude. On n'entendait que ses cris poussés avec fureur. « À bas Veto, à bas l'Autrichienne, la déchéance ou la mort !» Les deux enfants, comprenant que c'était surtout leur mère qui était menacée, se pressaient contre elle. Le petit dauphin demandait « Monsieur de Charny, pourquoi donc tous ces gens veulent-ils tuer maman ?» Un homme d'une taille colossale, armé d'une pique et criant plus fort que les autres « À bas Veto, à mort l'Autrichienne !» essayait, en dardant cette pique, d'atteindre tantôt la reine, tantôt le roi. L'escorte suisse avait été écartée peu à peu. La famille royale n'avait plus autour d'elle que les six gentilshommes qui étaient sortis avec elle des Tuileries, Monsieur de Charny et la députation de l'Assemblée qui était venue la chercher. Il y avait plus de 30 pas à faire au milieu d'une foule compacte. Il était évident qu'on en voulait au jour du roi et surtout à ceux de la reine. Au bas de l'escalier, la lutte commença. « Monsieur, dit Roederer à Charny, remettez votre épée au fourreau ou je ne réponds de rien. » Charny obéit sans prononcer une parole. Le groupe royal fut soulevé par la foule comme dans une tempête, une barque est soulevée par les flots, et fut entraîné du côté de l'assemblée. Le roi se vit obligé de repousser un homme qui lui avait mis le poing devant le visage. Le petit dauphin, presque étouffé, criait et tendait des bras comme pour appeler au secours. Un homme s'élança, le prit et l'arracha des mains de sa mère. « Monsieur de Charny, mon fils » s'écria-t-elle, « au nom du ciel, sauvez mon fils !» Charny fit quelques pas vers l'homme qui emportait l'enfant, mais à peine eut-il démasqué la reine que 2 ou 3 bras s'étendirent vers elle et qu'une main la saisit par le fichu qui couvrait sa poitrine. La reine jeta un cri. Charny oublia la recommandation de Roederer et son épée disparut tout entière dans le corps de l'homme qui avait osé porter la main sur la reine. La foule hurla de rage en voyant tomber un des siens et se rua plus violemment sur le groupe. Les femmes criaient « Mais tuez-la donc, l'Autrichienne! Donnez-nous-la, que nous l'égorgeons! À mort, à mort !» Et 20 bras nus s'étendaient pour la saisir. Mais elle, folle de douleur, ne s'inquiétant plus de son propre danger, ne cessait de crier « Mon fils, mon fils !» On touchait presque au seuil de l'assemblée. La foule fit un dernier effort, elle sentait que sa proie allait lui échapper. Charny était si serré qu'il ne pouvait plus frapper que du pommeau de son épée. Il vit, parmi tous ses poings fermés et menaçants, une main armée d'un pistolet qui cherchait la reine. Il lâcha son épée, saisit des 2 mains le pistolet, l'arracha à celui qui le tenait et le déchargea au milieu de la poitrine du plus proche assaillant. L'homme foudroyé tomba. Charny se baissa pour ramasser son épée. L'épée était déjà aux mains d'un homme du peuple qui essayait d'en frapper la reine. Charny s'élança sur l'assassin. En ce moment, la reine entrait à la suite du roi dans le vestibule de l'assemblée. Elle était sauvée. Il est vrai que derrière elle, la porte se refermait et que, sur le pas de cette porte, Charny tombait, frappé à la fois d'un coup de barre de fer à la tête et d'un coup de pique dans la poitrine. « Comme mes frères !» murmura-t-il en tombant. « Pauvre André !» Le destin de Charny s'accomplissait comme celui d'Isidore, comme celui de Georges. Celui de la reine allait s'accomplir. Du reste, au même moment, une décharge effroyable d'artillerie annonçait que les insurgés et le château étaient aux prises. Un instant, comme la reine en voyant la fuite de l'avant-garde, les Suisses purent croire qu'ils avaient eu l'affaire à l'armée elle-même, que cette armée était dissipée. Ils avaient tué 400 hommes à peu près dans la cour royale, 150 ou 200 dans le carrousel. Ils avaient enfin ramené 7 pièces de canon. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait pas un homme qui pût se défendre. Une seule petite batterie isolée, établie sur la terrasse d'une maison faisant face au corps de garde des Suisses, continuait son feu sans qu'on pût le faire taire. Cependant, comme on se croyait maître de l'insurrection, on allait prendre des mesures pour en finir coûte que coûte avec cette batterie, lorsqu'on entendit retentir du côté des quais le roulement des tambours et le rebondissement bien autrement sombre de l'artillerie. C'était cette armée que le roi regardait venir avec une lunette de la galerie du Louvre. En même temps, le bruit commença à se répandre que le roi avait quitté le château et était allé demander un asile à l'assemblée.
Il est difficile de dire l'effet que produisit cette nouvelle, même sur les royalistes les plus dévoués. Le roi, qui avait promis de mourir à son poste royal, désertait ce poste et passait à l'ennemi, ou du moins se rendait prisonnier sans combattre. Dès lors, les gardes nationaux se regardèrent comme déliés de leur serment et se retirèrent presque tous. Quelques gentilshommes les suivirent, jugeant inutile de se faire tuer pour une cause qui elle-même s'avouait perdue. Les Suisses seuls restèrent sombres, silencieux, mais esclaves de la discipline. Du haut de la terrasse du pavillon de Flore et par les fenêtres de la galerie du Louvre, on voyait venir ces héroïques faubourgs auxquels nulle armée n'a jamais résisté et qui en un jour avaient renversé la Bastille, cette forteresse dont les pieds étaient enracinés au sol depuis 4 siècles. Les assaillants avaient leur plan, ils croyaient le roi au château. Ils voulaient de tous côtés envelopper le château afin de prendre le roi. La colonne qui suivait le quai de la rive gauche reçut en conséquence l'ordre de forcer la grille du bord de l'eau, celle qui arrivait par la rue Saint-Honoré d'enfoncer la porte des Feuillants, tandis que la colonne de la rive droite, commandée par Westermann, ayant sous ses ordres Santerre et Biot, attaquerait de face. Cette dernière déboucha tout à coup par tous les guichets du carrousel en chantant « Ça ira ». Les Marseillais menaient la tête de colonne, traînant au milieu de leur rang 2 petites pièces de 4 chargées de mitraille. 200 Suisses à peu près étaient en bataille sur le carrousel. Les insurgés marchèrent droit à eux, et au moment où les Suisses abaissaient leurs fusils pour faire feu, ils démasquèrent leurs 2 canons et firent feu eux-mêmes. Les soldats déchargèrent leurs fusils, mais se replièrent immédiatement sur le château, laissant à leur tour une 30aine de morts et de blessés sur le pavé du carrousel. Aussitôt, les insurgés, ayant en tête les fédérés marseillais et bretons, se ruant sur les Tuileries, s'emparèrent de 2 cours, de la cour royale, placée au centre, celle où il y avait tant de morts, et de la cour des princes, voisine du pavillon de Flore et du quai. Biot avait voulu combattre là où Pitou avait été tué. Puis il lui restait un espoir, il faut le dire, c'est que le pauvre garçon n'était que blessé et qu'il lui rendrait, dans la cour royale, le service que Pitou lui avait rendu à lui dans le champ de Mars. Il entra donc un des premiers dans la cour du centre. L'odeur du sang était telle qu'on se serait cru dans un abattoir. Elle s'exhalait de ce monceau de cadavres, visible en quelque sorte comme une fumée. Cette vue, cette odeur exaspérait les assaillants. Ils se précipitèrent vers le château. D'ailleurs, eussent-ils voulu reculer, c'eût été impossible. Les masses qui s'engouffraient incessamment par les guichets du carrousel, beaucoup plus étroits à cette époque qu'ils ne l'étaient aujourd'hui, les poussaient en avant. Mais, hâtons-nous de le dire, quoique la façade du château ressemblât à un feu d'artifice, nul n'avait même l'idée de faire un pas en arrière. Et cependant, une fois entrés dans cette cour du centre, les insurgés, comme ceux dans le sang desquels ils marchaient jusqu'à la cheville, les insurgés se trouvaient pris entre 2 feux, le feu du vestibule de l'horloge et celui du double rang des baraques. Il fallait d'abord éteindre le feu des baraques. Les Marseillais se jetèrent sur elles comme des dogues sur un brasier, mais ils ne purent les démolir avec leurs mains. Ils demandèrent des leviers, des hoyaux, des pioches. Biot demanda des gargousses. Westermann comprit le plan de son lieutenant. On lui apporta des gargousses avec des mèches. Au risque de voir la poudre éclater dans leurs mains, les Marseillais mirent le feu aux mèches et lancèrent les gargousses dans les baraques. Les baraques s'enflammèrent. Ceux qui les défendaient furent obligés de les évacuer et de se réfugier sous le vestibule. Là, on se heurta, fer contre fer, feu contre feu. Tout à coup, Biot se sentit étreint par derrière. Il se retourna, croyant avoir affaire à quelque ennemi, mais à la vue de celui qui l'étreignait, il jeta un cri de joie. C'était Pitou, Pitou méconnaissable, couvert de sang des pieds à la tête, mais Pitou sain et sauf, Pitou sans une seule blessure. Au moment où il avait vu s'abaisser les fusils des Suisses, il avait, comme nous l'avons dit, crié « ventre à terre » et avait donné l'exemple. Mais cet exemple, ses compagnons n'avaient pas eu le temps de le suivre. La fusillade ainsi qu'une immense faux avait alors passé à hauteur d'homme et scié les 3/4 de ces épis humains qui mettent 25 ans à pousser et qu'une seconde ploie et brise. Pitou s'était littéralement senti enseveli sous les cadavres, puis baigné d'une liqueur tiède et ruisselante de tous côtés. Malgré l'impression, profondément désagréable, que Pitou ressentait, étouffé par le poids des morts, baigné par leur sang, il résolut de ne pas souffler le mot et d'attendre pour donner signe de vie un instant favorable. Cet instant favorable, il l'avait attendu plus d'une heure. Il est vrai que chaque minute de cette heure lui avait paru une heure elle-même. Enfin, il jugea le moment propice quand il entendit les cris de victoire de ses compagnons et au milieu de ces cris, la voix de Bio qu'il appelait. Alors, comment cela, d'enseveli sous le mont Etna, il avait secoué cette couche de cadavres qui le recouvrait, était parvenu à se remettre debout et, ayant reconnu Bio au premier rang, il était accouru le presser contre son cœur sans s'inquiéter de quel côté il l'y pressait. Une décharge des Suisses qui coucha par terre une dizaine d'hommes rappela Bio et Pitou à la gravité de la situation. 900 toises de bâtiments brûlaient à droite et à gauche de la cour du centre. Le temps était lourd, il ne faisait pas le moindre vent. La fumée de l'incendie et de la fusillade pesait sur les combattants comme un dôme de plomb. La fumée emplissait le vestibule du château. Toute la façade, dont chaque fenêtre flamboyait, était couverte d'un voile de fumée. On ne pouvait distinguer ni où l'on envoyait la mort, ni d'où on la recevait. Pitou, Bio, les Marseillais, la tête de colonne, marchèrent en avant et, au milieu de la fumée, pénétrèrent dans le vestibule. On se trouva devant un mur de baïonnettes, c'était celle des Suisses. Ce fut alors que les Suisses commencèrent leur retraite, retraite héroïque dans laquelle, pas à pas, de marche en marche, laissant un rang des siens sur chaque degré, le bataillon se replia lentement. Le soir, on compta 80 cadavres sur l'escalier. Tout à coup, par les chambres et par les corridors du château, on entendit ce cri « Le roi ordonne aux Suisses de cesser le feu !» Il était 2 heures de l'après-midi. Voici ce qui s'était passé à l'assemblée, ce qui avait amené l'ordre que l'on proclamait aux Tuileries pour faire cesser la lutte, ordre qui avait le double avantage de diminuer l'exaspération des vainqueurs et de couvrir l'honneur des vaincus. Au moment où la porte des Feuillants s'était refermée derrière la reine, et où, à travers cette porte encore entr'ouverte, elle avait vu levier de fer, baïonnette et pic menacer Charny, elle avait jeté un cri et tendu les bras vers cette porte. Mais, entraînée du côté de la salle par ceux qui l'accompagnaient, en même temps que par cet instinct de mère qui lui disait, avant toute chose, de suivre son enfant, elle était entrée à la suite du roi dans l'assemblée. Là, une grande joie lui avait été rendue. Elle avait aperçu son fils assis sur le bureau du président. L'homme qui l'avait apporté secouait triomphalement son bonnet rouge au-dessus de la tête du jeune prince et criait tout joyeux « J'ai sauvé le fils de mes maîtres, vive Monseigneur le Dauphin !» Mais son fils en sûreté, à un subit retour du cœur de la reine, la ramena vers Charny. « Messieurs, dit-elle, un de mes officiers les plus braves, un de mes serviteurs les plus dévoués, est resté à la porte en danger de mort. Je vous demande secours pour lui. » 5 ou 6 députés s'élancèrent à cette voix. Le roi, la reine, la famille royale et les personnages qui les accompagnaient se dirigèrent vers les sièges destinés aux ministres et y prirent place. L'assemblée les avait reçus debout, non point à cause de l'étiquette due aux têtes couronnées, mais à cause du respect dû au malheur. Avant de s'asseoir, le roi fit signe qu'il voulait parler. On fit silence. « Je suis venu, dit-il, pour éviter un grand crime. J'ai pensé que je ne pouvais être plus en sûreté qu'au milieu de vous. »« Sire, répondit Vergniaud qui présidait, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Ses membres ont juré de mourir en défendant les droits du peuple et les autorités constituées. » Le roi s'assit. En ce moment, une fusillade effroyable retentit presque aux portes du manège. La garde nationale, mêlée aux insurgés, tirait de la terrasse des Feuillants sur le capitaine et les soldats suisses qui avaient servi d'escorte à la famille royale. Un officier de la garde nationale, ayant sans doute perdu la tête, entra tout effaré et ne s'arrêta qu'à la barre, criant « les Suisses, nous sommes forcés !» L'assemblée crut un instant que les Suisses, vainqueurs, avaient repoussé l'insurrection et marchaient sur le manège pour reprendre le roi. Mais à cette heure, nous venons de le dire, Louis XVI était bien plutôt le roi des Suisses que le roi des Français. La salle se leva tout entière d'un mouvement spontané, unanime, et représentants du peuple, spectateurs des tribunes, gardes nationaux, secrétaires, chacun étendant les mains, cria « quelque chose qui arrive, nous jurons de vivre et de mourir libres. » Le roi et la famille royale n'avaient rien à faire dans ce serment. Aussi restèrent-ils seuls assis. Ce cri, poussé par 3000 bouches, passa comme un ouragan au-dessus de leur tête. L'erreur ne fut pas longue, mais cette minute d'enthousiasme fut sublime. Un quart d'heure après, un autre cri retentit. « Le château est envahi! Les insurgés marchent sur l'assemblée pour y égorger le roi !» Alors ces mêmes hommes, qui, en haine de la royauté, venaient de jurer de mourir libres, se levèrent avec le même élan et la même spontanéité, jurant de défendre le roi jusqu'à la mort. À cet instant même, on sommait, au nom de l'assemblée, le capitaine suisse d'Hurleur de mettre bas les armes. « Je sers le roi et non l'assemblée, dit-il. Où est l'ordre du roi ?» Les mandataires de l'assemblée n'avaient pas d'ordre. « Je tiens à mon commandement du roi, reprit d'Hurleur. Je ne le remettrai qu'au roi. » On l'amena presque de force à l'assemblée. Il était tout noir de poudre, tout rouge de sang. « Sire, dit-il, on veut que je mette bas les armes. Est-ce l'ordre du roi ?»« Oui, répondit Louis XVI, rendez vos armes à la garde nationale. Je ne veux pas que de braves gens comme vous périssent. » D'Hurleur courba la tête, poussa un soupir et sortit. Mais à la porte, il fit dire qu'il n'obéirait que sur un ordre écrit. Alors le roi prit un papier et écrivit « Le roi ordonne aux Suisses de poser les armes et de se retirer aux casernes ». C'était là ce qu'on criait dans les chambres, les corridors et les escaliers des Tuileries. Comme cet ordre venait de rendre quelque tranquillité à l'assemblée, le président agita sa sonnette. « Délibérons, dit-il. » Mais un représentant se leva et fit observer qu'un article de la Constitution défendait de délibérer en présence du roi. « C'est vrai, répondit Louis XVI, mais où allez-vous nous mettre ?»« Sire, dit le président, nous avons à vous offrir la tribune du journal Le Logographe, qui est vide, le journal ayant cessé de paraître. « C'est bien, dit le roi, nous sommes prêts à nous y rendre. » « Huissier !» cria Vergniaud, « conduisez le roi à la loge du logographe !» Les huissiers se hâtèrent d'obéir. Le roi, la reine, la famille royale reprirent pour sortir de la salle le chemin qu'ils avaient pris pour y entrer et se retrouvèrent dans le corridor. « Qu'y a-t-il donc à terre ?» demanda la reine, « on dirait du sang ?» Les huissiers ne répondirent point. Si ces taches étaient véritablement des taches de sang, peut-être ignoraient-ils d'où elles venaient. Les taches, chose étrange, étaient plus larges et plus fréquentes à mesure qu'on s'approchait de la loge. Pour épargner ce spectacle à la reine, le roi doubla le pas et, ouvrant la loge lui-même, « Entrez, madame, dit-il à la reine. » La reine s'élança, mais en mettant le pied sur le seuil de la porte, elle poussa un cri d'horreur et, les mains sur les yeux, se rejeta en arrière. La présence des taches de sang était expliquée. Un cadavre avait été déposé dans la loge. C'était ce cadavre que la reine, dans sa précipitation, avait presque heurté du pied, qui lui avait fait pousser un cri et se rejeter en arrière. « Tiens, dit le roi, du même ton qu'il avait dit, c'est la tête de ce pauvre monsieur Mandat. Tiens, c'est le cadavre de ce pauvre comte de Charny. » C'était en effet le cadavre du comte que les députés avaient tiré des mains des égorgeurs et qu'ils avaient donné l'ordre de placer dans la loge du logographe, ne pouvant deviner que 10 minutes après, on y installerait la famille royale. On emporta le cadavre et la famille royale entra dans la loge. On voulait la laver ou l'essuyer, car le plancher était tout couvert de sang, mais la reine fit un signe d'opposition et prit place la première. Seulement, nul ne vit qu'elle brisait les cordons de ses souliers et mettait ses pieds, frémissants, en contact avec ce sang tiède encore. « Oh, Charny, murmura-t-elle, Charny, Charny, pourquoi mon sang ne coule-t-il pas ici jusqu'à la dernière goutte pour se mêler pendant l'éternité avec le tien ?» 3 heures de l'après-midi sonnaient.